Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Pour le partage aujourd'hui, j'aimerais revenir quelques temps en arrière. Nous sommes maintenant début mars, au moment de ce message, et déjà 2 mois de la nouvelle année se sont passés. Donc, si vous vous rappelez, le 1er janvier, normalement, ou à ces environs, nous avions pris de bonnes résolutions, d'accord? Parce qu'on a pensé qu'une nouvelle année allait apporter des changements. Et entre-temps, nous avons vu, et nous avons déjà parlé, que c'est pas le changement d'un millésime qui change quoi que ce soit. Et donc, on avait déjà fait quelques réflexions sur les bonnes intentions qui sont des fois pas suivies des faits, sur les résolutions qui ne mènent pas loin. Mais ce que je voudrais encore vous encourager aujourd'hui, c'est que dans votre lecture de la parole de Dieu, dans la façon dont vous nourrissez votre esprit au quotidien, que vous puissiez vraiment en faire une lecture intelligente. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous n'allez pas vous développer spirituellement, ça c'est clair. Et même si vous aviez quelques réserves, au bout d'un moment, elles vont fondre et vous serez de plus en plus faible spirituellement. Donc soyez bien conscient que si vous ne recevez pas la parole et la parole inspirée de Dieu, si vous n'avez pas cette action du Saint-Esprit dans votre vie, vous n'allez pas grandir spirituellement et vous ne serez pas capable de faire face aux choses qu'il faut. Et quand des fois les gens disent les choses deviennent de plus en plus difficiles, alors si elles deviennent de plus en plus difficiles, il faut que nous soyons de plus en plus forts. Et si Dieu nous donne aujourd'hui des épreuves, on se rappelle que 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Aucune tentation, ou certaines versions disent aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. » On ne peut pas dire « Ah, ça je ne peux pas faire face, etc. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Qu'une épreuve arrive en disant « ça, je ne pouvais pas y faire face ». Mais il nous est dit, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et nous savons, avec la tentation, ça veut dire que Dieu, il n'est pas pris au dépourvu. Il n'y a pas « Ah, que se passe-t-il ? Quelque chose m'a surpris, il faut vite que je trouve une solution. » Non, c'est même avant que quoi que ce soit se présente, qu'il y avait déjà une provision de Dieu. C'est pourquoi, qui vous vous préparez le matin pour votre journée, il y a des choses que vous recevez en fonction de ce que vous allez affronter. Mais ça peut aussi être le soir d'avant, ça peut être la semaine d'avant, ça peut être le dimanche, ce que vous recevez le dimanche matin pour la semaine. Ça peut être toutes sortes de choses, mais il y a cette notion que Dieu fait des choses à l'avance pour nous. À nous de saisir cette occasion. Donc, ayez une lecture intelligente et une lecture active. Si vous vous surprenez, comme n'importe qui, ça peut nous arriver à chacun, à dire « Ah, je comprends rien, oh, c'est pas très intéressant, mais il faut que je lise parce qu'il faut lire la Bible. » C'est pas une lecture ni intelligente ni active. Néanmoins, comme je l'ai dit, il est bon de se donner des objectifs. Alors, par exemple, la Bible en un an, c'est un excellent objectif. À un moment donné, vous devrez passer par le Lévitique. Ce que je viens de faire, et j'ai lu Lévitique 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. J'en suis arrivé à Lévitique 9. Et là, il y avait la récompense dans Lévitique 9. Donc nous allons prendre Lévitique 9. Des fois, il y a des moments où on est comme dans le travail du laboureur. Hein. Il y a du travail en hiver, c'est pas forcément intéressant. Et puis il faut semer, et puis il faut entretenir, et puis il faut plein. Ce que tout le monde préfère, c'est la récolte. Et même quand c'est déjà récolté, on préfère encore plus. Quand c'est déjà récolté, qu'on profite du fruit. Mais il y a des temps, et rappelez-vous, dans la Bible, il nous est dit que toutes les choses naturelles nous sont données dans un seul but. C'est nous enseigner des choses spirituelles. Le spirituel existait avant le naturel. Mais pour nous, maintenant, il nous est dit dans la parole de Dieu, le naturel vient d'abord et le spirituel ensuite. Parce qu'on est né naturellement, mais en vue de quelque chose. Quand on voit la diversité dans la création de Dieu, c'est absolument extravagant de la part de Dieu, exubérant, toute cette diversité d'animaux, de plantes, de tout ce qu'il a créé, en vue de quoi ? Il nous est dit dans Romains que ces choses que nous voyons à l'œil nu nous parlent de la gloire de Dieu, nous parlent de son abondance, de sa richesse, de son infinie capacité de créer, d'être, etc. Donc tout cela nous parle de Dieu. Et voilà que nous arrivons dans Lévitique, et nous arrivons au chapitre 9, et nous arrivons au verset 23, et il nous est dit « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation ». C'est comme ça que nous avons commencé notre culte ce matin. « Entrons dans ce lieu ». En hébreu, je ne connais pas beaucoup d'hébreu, mais ça je le sais, c'est « makom », ça veut dire « l'endroit ». C'est l'endroit. Il y a un lieu de rencontre. La tente d'assignation était aussi appelée la tente de la rencontre. Il y a un endroit de rencontre avec Dieu. Et donc, ils arrivent à cette tente d'assignation assignée, quelque chose qui est assigné, c'est un terme juridique. Vous devez vous rendre à tel endroit. Vous devez le faire. C'est une obligation. Et là, c'est quelque chose que Dieu a dit qu'il fallait le faire. Ils sont rentrés dans ce lieu. Et j'espère que nous sommes tous rentrés dans ce lieu, pas seulement ici au centre de formation biblique, au lieu de notre église locale, mais cet endroit spirituel où nous rencontrons Dieu. Et lorsqu'ils en sortirent, et j'espère que ce sera notre expérience, ils bénirent le peuple. Nous serons capables de bénir, de faire du bien, de proclamer une bénédiction sur les gens. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, pas juste l'une ou l'autre personne spécialement spirituelle. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Voyez comme c'est passionnant de lire Lévitique. Chez moi, c'est même maintenant surligné en rouge et en jaune fluo. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste. Le feu, on a vu la gloire de Dieu et le feu est sorti de cette nuée, de cette chose brillante, le feu est sorti et a consumé. Consumé, ça veut dire entièrement brûlé. L'Holocauste, ce terme veut dire justement un sacrifice offert et qui est entièrement consumé. Alors, qu'est-ce qu'a fait tout le peuple ? Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Quand vous voyez ça, la gloire de Dieu, le feu sort et le sacrifice est consumé. Pourquoi ? Parce que c'est l'approbation de Dieu. La présence de Dieu est manifeste. Il approuve ce que nous avons fait. Il est d'accord avec tout ce qui a été fait. Souvent les gens cherchent à plaire à Dieu, ils font des efforts de toutes sortes. Mais est-ce qu'on sait vraiment si ça lui plaît ou si ça ne lui plaît pas ? Des fois, on a l'impression. Des fois, selon nos idées, on dit ça doit certainement faire plaisir à Dieu. Mais là, ils ont l'attestation, parce que Dieu répond par le feu et il montre qu'il est présent et qu'il accepte leur sacrifice. Ça voulait dire beaucoup de choses, parce que si vous lisez, justement, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, vous verrez toutes les prescriptions. Tout le détail de ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, quel animal sacrifier, avec quelle façon il fallait l'égorger, le découper, le mettre sur le feu ou pas sur le feu, ou brûler un morceau ailleurs, ou on avait le droit d'en manger ou pas d'en manger. Et tous ces détails, pourquoi faire ? Pour montrer la sainteté de Dieu. Qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Qu'il est saint, ça veut dire mis à part. On ne vient pas là, pécheur, on se fiche de Dieu, et puis là on arrive et tout à coup on veut expérimenter sa glorieuse présence et avoir sa bénédiction dans notre vie. Ça ne marche pas. Donc il y a des prescriptions très très exactes qui nous montraient quelque chose. Et qui montraient en particulier que ces sacrifices étaient acceptés de Dieu. Quels sacrifices ? Là, vous pouvez voir encore toute la liste. Sacrifice de culpabilité, quand vous avez fait quelque chose et que vous saviez que c'était pas bien. Mais aussi quand vous avez fait quelque chose que vous saviez pas que c'était pas bien. Et quand vous avez fait quelque chose et que vous êtes rendu compte par après que c'était pas bien, et tout est détaillé pour vous montrer que, pourquoi vous pouvez crier de joie en tant que peuple de Dieu. Il le vit et il criait de joie et se jetait parce qu'ils sont dit, ça y est, nos péchés sont effacés. Ça y est, la colère de Dieu est calmée. Parce que c'était ça qu'il craignait. Un Dieu qui est juste, qui est saint, qui ne peut pas accepter certaines choses. Nous avons besoin aussi de parler des fois de la colère de Dieu et du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que la colère de Dieu ne nous est pas destinée parce qu'il désire au contraire nous sauver totalement. Encore un point concernant ce Lévitique et cette joie que nous avons de réaliser que tous nos péchés sont effacés, que nous sommes parfaitement purifiés par le sang de Jésus. Tous ces sacrifices et toute cette organisation ne pouvaient pas se faire n'importe comment. D'abord, il n'y avait que Moïse qui était capable. Dans un deuxième temps, c'est Moïse qui a rendu Aaron et ses fils capables. Et dans un troisième temps, ces gens-là ont pu exercer la prêtrise auprès du peuple. D'accord ? C'est important qu'on le réalise dans cet ordre. Si nous pouvons bénir le peuple et faire du bien autour de nous, c'est seulement parce qu'il y a eu un autre intermédiaire avant nous, qui nous a maintenant rendus capables. Vous réalisez ça ? C'est très important. C'est le problème. Si les gens avaient une meilleure connaissance de la parole de Dieu, nous n'aurions pas actuellement dans le corps de Christ des apôtres et prophètes autoproclamés qui connaissent rien du tout à la parole de Dieu et qui veulent juste se rendre intéressants. Ce sont des personnes qui des fois sont sincères, mais elles sont des fois sincèrement dans l'erreur de penser que parce que j'ai dit 2-3 paroles qui étaient tombées justes, je suis maintenant un prophète. Non, je ne suis pas autant un prophète tout de suite. Et ici, nous voyons clairement dans la parole de Dieu qu'il y a un moment où Moïse a dû préparer les gens pour le service. C'est dans Lévitique au chapitre 8. Il nous est dit, Moïse a pris l'huile d'onction, il a oint d'abord le sanctuaire, toutes les choses qui y étaient, il l'a sanctifié, il a fait 7 fois l'aspersion sur l'autel, il a oint l'autel et tous ses ustensiles, la cuve, etc. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné afin de le sanctifier. Aaron n'était pas capable avant. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il nous a même dit des détails, on peut dire tous ces détails. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures, leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné. Tous les petits détails, mais qui ont leur importance, parce que ça montre que ces gens savent s'humilier devant Dieu, accepter son plan et se laisser conduire selon le plan de Dieu. À un moment donné, il nous est dit de nouveau, c'est Moïse qui les fit approcher. Il a fait approcher le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et donc, il y a toutes sortes de choses, d'étapes, qui ont fait que finalement, ils sont devenus capables de servir. Des fois, on est saisi par un zèle, que c'est très bien, et on veut tout de suite courir et servir, et on n'est pas prêt. Donc, il y a un temps de préparation. Il y a un temps où il y a une manifestation de cet appel et un temps pour l'accomplissement. J'ai déjà empiété un peu sur les choses que je voulais dire, mais ça ne fait rien. Gardez à l'esprit ces 3 choses. Et on a vu toute cette préparation. Parce que nous, on voudrait tout de suite aller dans Lévitique 9 au verset 23 et 24, voir la gloire de Dieu, voir la puissance du feu de Dieu et crier de joie et vivre cette expérience avec Dieu. Mais il n'y a pas de Lévitique 9 avant qu'on ait passé par les 1 à 8 et 9. D'accord ? Donc, je vous encourage dans votre, ne serait-ce que pour ça, dans votre lecture biblique et dire « Seigneur, parle-moi ». Lévitique 1 jusqu'à 9, ce chiffre 9, on ne va pas faire maintenant de la magie des chiffres, mais il se trouve que Dieu a prévu qu'il fallait 9 mois pour qu'un enfant puisse se développer dans le sein de sa maman. D'accord ? Il se trouve que Joseph est venu le 6 juin et il va repartir le 6 mars. Ça va faire 9 mois. 9 mois de travail, de préparation en vue de quelque chose. Alors, c'est ce que Dieu a prévu pour un être humain. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'il nous enseigne dans la nature. Savez-vous combien de temps il faut de gestation pour un moustique dans le ventre de la maman moustique? Ben non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour un moustique, pour éclore d'un œuf, il faut pas grand chose, d'accord? Par contre, pour un éléphant, dans le ventre de la maman éléphant, il faut? Hein? Oui, pas loin de 2 ans, hein. Pas loin de 2 ans, oui. 2 ans, mais après, ça fait un bébé qui est d'une taille. Et donc, c'est ce principe que certaines choses, nous sommes frustrés parce qu'elles ne viennent pas assez vite. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire par après. Si vous voulez un petit résultat immédiat, c'est ce que vous aurez, un petit résultat immédiat. Si vous voulez quelque chose de glorieux, ben, des fois, ça demande du temps de préparation. Quelqu'un dit, ça demande plus de temps de former des généraux pour l'armée que des simples soldats. De simples soldats, bon, un peu d'exercice, mais sinon, sa formation intellectuelle, c'est tais-toi et obéis, et puis ne pose pas de questions. Voilà, tu dois le faire, un point c'est tout. Par contre, en général, pour établir des stratégies, ça demande un peu plus de temps, d'accord? Donc, des fois, on veut passer cette opération rapidement, préparation, je suis prêt, allez-y, hop. Mais nous devons prêter attention à cette préparation. Et la préparation n'est pas un temps perdu. Je l'avais déjà cité à certaines occasions. J'avais lu dans un couloir de la faculté de théologie protestante, ils avaient dit « La prière ne retarde pas le travail, pas plus que affûter une faux ne retarde le fauchage. » Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Pourquoi vouloir se précipiter pour faire un travail bâclé, incomplet et qui n'est satisfaisant pour personne? Non, au contraire, prenons le temps. Alors on regarde certaines choses et nous sommes humains, naturels des fois. Qu'est-ce qu'on fait? On les méprise. C'est pas grand-chose. On voit une chenille. Je sais pas si vous voyez les chenilles, si ça vous fait plaisir de voir une chenille, mais on préfère le papillon. Le papillon, c'est joli. Mais il fallait passer par le stade chenille, cocon et tout le reste. Et alors, tout le monde aimerait qu'il n'y ait que des papillons, mais d'abord, il faut la chenille. C'est comme ça que Dieu l'a voulu pour nous enseigner, pour nous montrer. Non, c'est important, la chenille. Ça va devenir le papillon, mais pour le moment, c'est un potentiel. Alors, ce que je disais, on méprise certaines choses. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Il ne faut pas regarder certaines choses que du point de vue naturel. Et donc, on méprise certaines choses. Pour d'autres, on a des préjugés. Albert Einstein a dit « Il est plus facile de faire la scission d'un atome que de détruire un préjugé. » Vous savez ce qu'il disait? Il s'y connaissait en atomes. Mais c'était aussi un philosophe et quelqu'un qui réfléchissait. Et rappelez-vous que dans la parole de Dieu, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, la parole vivante incarnée, a été l'objet de mépris. On parle dans Ésaïe 53, il était méprisé, on faisait de lui peu de cas. Mais ça l'a poursuivi pendant, on peut dire, toute sa vie. Quand il a posé des questions au docteur de la loi, ses parents lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne comprenait pas. Quand il a été présenté à certains comme Nathanaël, un des premiers disciples, la première réflexion c'était « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Parce que la Galilée était l'endroit en Israël qui était un lieu de préjugés. On disait « Ça c'est un endroit où il n'y a pas grand-chose qui peut en sortir. » Et on peut s'y mettre tous, à chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, on a été victime, soit de mépris ou de préjugés. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on l'est à nos propres yeux, quand on se méprise soi-même, quand on a des préjugés, quand on commence à se dire « j'arriverai pas », etc. Donc on n'a pas une juste évaluation de soi-même. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons aussi lire dans 1 Corinthiens 2 la différence entre l'homme spirituel et l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles, n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il nous faut un sens supplémentaire, pas seulement les cinq sens. Un sens supplémentaire. Il n'accepte pas ses dons. Certains d'entre nous, on n'accepte pas les dons qu'on a. On voudrait le don de l'autre, mais il faut que nous reconnaissions que nous avons de la valeur et des dons qui sont utiles pour le corps. Aussi, certains, ils n'acceptent pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur. Et il peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Et ça, c'est intéressant aussi. On ne se laisse pas juger par les autres. Vous n'êtes pas tout le temps devant le tribunal. Pourquoi ? Parce que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Je n'ai pas tout le temps besoin de plaire aux autres. J'ai juste besoin de diriger ma vie d'après ce que je crois juste devant Dieu. Ça veut dire que des fois, il y aura des incompréhensions. Mais qui, donc, connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire ? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Donc on ne peut pas se contenter des facultés naturelles. Je vous ai parlé de certaines choses naturelles, on a fait un peu de biologie, hein, mais en réalité ce qui est important c'est de voir, ce ne sont que des comparaisons et des choses qui nous apprennent à mieux capter certaines choses spirituelles. Et puisque nous sommes dans ce Lévitique, après le chapitre 9, dans le chapitre 10, nous avons juste deux points que je vais souligner. C'est maintenant que ces gens, Aaron et ses quatre fils, étaient consacrés pour le service. Il y en a qui ont voulu faire du zèle, mais à leur façon. Et il nous est dit que Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils ont pensé que c'était une bonne idée pour faire plaisir à Dieu. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne l'avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Non, pour dire juste combien, des fois on prend à la légère certaines choses, mais c'est pas en ayant vu quelque chose qui se passait, dire « Ah, je vais faire pareil, ça fera plaisir à Dieu ». Ben non, c'était un feu étranger, c'était pas la bonne façon. Et donc, après, Moïse donne quelques explications. C'est l'Éternel qui parle à Aaron et il dit qu'il faut se consacrer, etc., se mettre à part. Et au verset 10, « Vous devez faire certaines choses afin que vous puissiez distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est impur et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Donc, il dit « C'est important que vous puissiez faire la distinction. » entre ce qui est pur et ce qui est impur. J'ai entendu dernièrement, et ce n'est pas non plus pour faire un jugement ou une critique, j'ai entendu dernièrement que dans certaines églises, pour avoir une bonne louange, on était en train de recruter des musiciens qui n'étaient pas chrétiens. Ce sont des excellents musiciens, mais maintenant, on s'est rendu compte que le fait d'avoir des musiciens qui aient un langage grossier et qui soit des fois ivre après le culte, ça avait quand même une mauvaise réputation pour l'Église. Donc on veut faire des choses pour être dans le vent, avoir une super louange avec des musiciens de qualité, mais ça m'a fait penser à certaines choses par rapport au feu étranger qu'on veut apporter. Même si c'est pas un feu qui brille très très fort, il faut qu'il soit de nature divine. Il vaut mieux le vrai feu de Dieu, plutôt que quelque chose de clinquant, qui rayonne, que le monde admire, et puis après, on en voit la nature. Parce que vous avez vu que quand, à un moment donné, le jugement de Dieu se manifeste, alors on ne tient pas avec certaines attitudes. Et le jugement de Dieu, jugement, c'est pas condamnation. Le jugement de Dieu, c'est l'évaluation. Vous vous rappelez? Quand les lettres sont apparues sur le mur et il a été dit « tu as été pesé et compté et trouvé léger dans la balance de Dieu », ça veut dire que ce que tu as fait n'est pas de nature à satisfaire Dieu. Donc, nous devons distinguer ce qui est saint, ce qui est mis à part, et ce qui est simplement profane. Il y a un temps de préparation, un temps que nous devons prendre très au sérieux, et puis ensuite, il y a un moment de l'apparition. Donc, 9 mois de préparation, pour maintenant, une apparition, où quelque chose paraît. Nous l'avons déjà, vous savez, dans ce que je partage avec vous, c'est des choses que je vis, que je découvre moi-même actuellement dans la parole de Dieu, et que je veux rendre vivant de plus en plus. Nous avions partagé ces dernières semaines sur Colossiens, quand il dit, quand celui qui doit venir apparaîtra, vous aussi paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc il y a un moment pour vivre caché avec Christ, et des fois ce moment est trop long. On aimerait que tout paraisse, que tout soit évident, que les gens disent « Ouais, mais je veux aussi ce que tu as, etc. » Mais il faut qu'on tende vers ça, qu'on tende, pour que le jour où ça se manifeste, on est prêt. Et on n'est pas avec une solution brouillon, une solution un peu bancale, mais vraiment la puissance de Dieu. Donc, à un moment donné, il y a une apparition, et c'est là que nous pouvons considérer que après ce temps de préparation, nous avons maintenant accédé à la royauté. Donc, une partie de la famille royale va donc déménager et va se retrouver quelque part, et nous allons invoquer sur eux cette parole de Esther au chapitre 4, où il nous est dit « Tu verras si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été à la place où Dieu t'a mis. Car le peuple de Dieu, partout dans le monde, en Irlande, en France, on a besoin d'un secours, on a besoin de délivrance. Qui sera celui qui va répondre? Toi, moi, nous? Mais il nous est dit, nous ne devons pas nous taire. Car si tu te tais maintenant, le secours, la délivrance surgiront d'autre part. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alors on va le dire tous ensemble. Je suis parvenu à la royauté.
Je suis parvenu à la royauté.
Pour un temps comme celui-ci.
Pour un temps comme celui-ci.
Pour un temps comme celui-ci. Donc nous sommes dans le bon timing de Dieu. C'est bien de faire partie de la famille du roi. Mais est-ce qu'on est prêt à régner? Vous voyez la différence? Dès qu'il y a une naissance dans la famille royale, voilà, on dit, voilà, c'est un futur héritier de la couronne. Ensuite, il y a l'ordre dans lequel chacun va accéder à la royauté, mais à un moment donné, si le roi ou la reine vient disparaître, il faut que quelqu'un puisse accéder réellement à la royauté et exercer la royauté. Et quand on a connu ça dans l'histoire des rois de France, quand le roi était trop jeune, ben, il y avait une régence. On ne pouvait pas le laisser régner. Dans le peuple d'Israël aussi, à un moment, on a eu un roi qui était remarquable. Il a accédé à la royauté à 7 ans. Et c'était un règne prospère. Pourquoi? Parce qu'il y avait le souverain sacrificateur qui était un homme craignant Dieu, qui lui a servi de tuteur, de mentor, de conseiller, de régent, de tout cela. Et c'était glorieux de ce qui s'est passé. Mais il est important pour nous que nous puissions faire la différence entre faire partie de la famille de Dieu et nous disons, nous sommes l'armée du roi, les fils du roi, les filles du roi, toutes ces choses qu'on a dans nos champs, mais à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait effectivement. 1 Pierre 5 nous dit cela. Ça c'est juste encore pour appuyer... 1 Pierre 2 et verset 9, pour que vous vous rappeliez à quel endroit de la parole de Dieu c'est. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc c'est bon que vous sachiez cela. Ça c'est l'endroit où c'est acquis, scellé, écrit « Je fais partie de la famille du roi ». Je suis un membre de la famille royale. Mais maintenant, pour pouvoir savoir comment régner, Et ça, c'est justement pourquoi je parlais du chapitre 5. C'est dans Romains 5, au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux, c'est-à-dire nous, tout le monde dit, c'est-à-dire moi, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Donc une chose est d'être famille royale, une autre c'est de régner dans la vie. D'accord ? Vous êtes intéressés de régner dans la vie ? Donc pour régner dans la vie, il faut avoir la mentalité du royaume. Un de nos amis, le pasteur Marc McCord, nous avait enseigné sur le leadership et il avait bien illustré, il avait dit, mais si vous venez chez moi, il y a certaines choses qui seront différentes que chez vous, par exemple. Et c'est de cette façon que Jésus a enseigné en disant, il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. En disant, chez vous peut-être on met les pieds sur la table, mais chez moi ça ne se fait pas. Chez vous peut-être on mange avec les mains, mais chez nous on prend des couverts. Et plein de choses comme ça. Donc, nous avons besoin d'acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans un temps d'abord de préparation et ensuite temps de manifestation où nous sommes constamment obligés de faire des choix et de commencer à marcher comme un roi, marcher la tête haute, se redresser et ne plus avoir nos complexes d'infériorité de toutes sortes, apprendre à parler comme un roi et apprendre à agir comme un roi. Tout ça, ça s'apprend. Beaucoup de gens ne sont pas intéressés. On aimerait être des princes et des princesses parce qu'on voit le clinquant, on voit la richesse, on voit des choses glorieuses. Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Mais est-ce qu'ils voudraient faire la formation qu'il y a dans les familles royales pour apprendre les bonnes manières et pour être dans un protocole rigide et il faut faire ci, il faut faire ça, on n'a pas le droit des écarts et tout ça. Là, il y a déjà moins de candidats. Parce que, en fait, on vit dans une illusion. Mais ici, nous sommes dans la réalité spirituelle. Que nous sommes membres de la famille royale, nous apprenons à vivre selon le standard de la famille de Dieu. Et nous arrivons avec cette apparition à l'accomplissement. L'accomplissement, ça veut dire c'est maintenant nous voyons des choses concrètes. L'accomplissement, c'est comme je le disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu, dans des choses que nous décidons. Nous ne sommes pas dans un système d'autoproclamation. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Et pour ça, je voudrais vous inviter à venir dans Jean chapitre 15 et relire encore une fois ce passage tellement important pour chacun d'entre nous. 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Concernant Joe et Rebecca qui sont là, et quel que soit leur désir de retrouver famille, amis, église en Irlande, l'important dans la vie de chacun d'entre nous, c'est est-ce que je vais à l'endroit que Dieu a choisi pour moi ? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu a choisi pour moi ? Et ne soyez pas inquiets quand il choisit quelque chose pour vous. Moi, j'en suis persuadé. C'est quelque chose qui va correspondre à ce qu'il y a au fond de vous. Quelque chose qui va vous satisfaire de façon profonde. Quelque chose qui ne va pas toujours plaire à la chair dans certains domaines. Certaines choses, nous n'aimons pas. Mais ça sera toujours la meilleure chose pour nous. Et le fait que ce n'est pas nous qui avons choisi, ça veut dire que ce n'est pas à nous de le porter. S'il nous dit d'aller là-bas, ça veut dire qu'il croit que nous avons la capacité d'aller là-bas. Ça veut dire qu'il nous donnera la provision pour aller là-bas. Quand je dis là-bas, ça veut dire pour chacun d'entre vous l'endroit qu'il vous montre. Que ça soit pour votre ministère, famille, travail, là où vous habitez ou d'autres choses. Quand on se laisse conduire par Dieu, il y a un endroit, il nous a établi pour qu'on aille, mais aussi qu'on porte du fruit. C'est là aussi souvent que ça pêche, si on peut dire comme ça. Porter du fruit, on ne voit pas assez de fruits. Jésus était sévère avec le figuier qui n'avait pas de fruits. Il dit parce que cet arbre, il était censé porter du fruit. C'est à ça qu'il sert. Nous avons parlé avec la famille dernièrement par rapport à une personne. On disait, mais qu'est-ce qu'elle aura fait de son existence sur terre? Et c'est une question qu'on se pose de ce que les gens font de leur vie. Il y a des gens qui ont vécu et tout le monde applaudit. Tout le monde trouve que des gens qui ont donné leur vie, comme Mère Teresa, ou des gens comme ça, ils se sont donnés pour les autres et que c'est admirable. Vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez, quand on se dirige selon la volonté de Dieu, on a tout de suite une promesse qui est rattachée. Ça veut dire que dans ce que vous faites, vous pouvez aussi demander des choses au Père et il vous le donne. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai dit à l'instant? Qu'on admire les gens qui se sont donnés pour les autres. Et ça, c'est juste au-dessus. Quand Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et lui, il l'a manifesté. Il est d'ailleurs étonnant que des gens puissent admirer toutes sortes de personnes sur terre et n'aient pas plus d'admiration pour le Seigneur Jésus, qui pourtant a fait le sacrifice ultime. Mais ça, c'est parce qu'il y a une raison spirituelle. Donc, Dieu nous a choisis, il nous a établis, il a mis des choses dans notre vie pour qu'on ait spirituellement des capacités. Et puis, il nous a dit d'aller, aller par toutes les nations, etc. Et puis, il est important pour nous qu'on n'aille pas comme est allé Moïse. Ça y est, je vais y aller et puis je vais leur montrer. Et ils comprendront que c'est moi qui vais les sauver et les délivrer. Là encore, quelle que soit la formation, si on va trop tôt ou trop fort, il y a un recyclage de 40 ans dans le désert, avis aux amateurs. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » On avait aussi un chant dans ce sens tout à l'heure, « Le creux de sa main ». Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Des fois, quand on a beaucoup donné, on a aidé, on a servi, on aimerait être un peu élevé, qu'il y ait de la reconnaissance, que les autres remarquent notre dévouement, notre ministère, et des fois ça ne vient pas. Parce que c'est au temps convenable. Et le temps convenable, pour nous, il semble toujours qu'il soit plus tard qu'on aimerait. C'est toujours une loi qui se vérifie toujours plus tard. Mais cet accomplissement, il est important qu'il se fasse au bon timing de Dieu. Et en conclusion, je voudrais, puisque nous sommes en Jean 15, je vous demande de tourner votre page et d'arriver au Jean 17, de réaliser que nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas partie du système du monde. Nous ne faisons pas partie du système diabolique, du système de l'esclavage, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, peu importe où Dieu nous place, soit géographiquement, soit spirituellement, dans quelle partie du corps de Christ, l'important c'est de réaliser que nous ne sommes pas du monde. Notre attente principale, elle n'est pas ici-bas, et ce n'est pas par rapport à certaines choses que les gens recherchent, mais que nous fonctionnons d'une façon tellement différente. N'ayez pas peur d'être différent. Ça aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète encore une fois. Dieu vous a fait différent. Pourquoi voulez-vous devenir une copie? On est tous des originaux et beaucoup de gens cherchent à être pareils que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on cherche à être pas montré du doigt, discret, se faire accepter, toutes sortes de choses. Mais en tant que chrétien aussi. Nous ne sommes pas là pour montrer, mais nous sommes comme vous. Non, nous ne sommes pas comme vous. Nous étions comme vous. Et par certaines choses, nous vous ressemblons, mais nous sommes différents. Et rappelez-vous, les deux seuls qui ont pénétré dans Canaan, dans le pays de la promesse, c'est Josué et Caleb. Et ce que la Bible nous dit, ils étaient animés d'un autre esprit. Ils étaient différents. Donc, n'ayez pas peur d'être différents. Jean 17 nous dit... Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et c'est pourquoi il se passe quelque chose d'extraordinaire. Différent, ça nous renvoie encore une fois à sanctifier, mis à part. Romains 8 nous dit, il les a sanctifiés. Et mis à part, et ça c'est ma conclusion, c'est aussi ce qui est arrivé dans Actes au chapitre 13. Lorsqu'ils étaient réunis en église, ils étaient là pour servir le Seigneur, pour prier, pour exercer le ministère. Et il nous est dit, il y avait des prophètes et des docteurs, il y a l'énumération. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Joe et Rebecca pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je donne un exemple précis, mais ça peut être pour chacun d'entre vous. Il y a un moment où nous devons nous rappeler qu'il y a un moment de mise à part pour chacun d'entre nous. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et nous allons aussi accomplir cette dernière partie des Écritures. Nous voulons encore prier les uns pour les autres et voir que ce qu'il fait pour l'un, il le fait pour l'autre. Il y a un temps de préparation, il y a un temps d'établissement et il y a un temps où il te libère dans ton ministère. Et ton ministère, il peut évoluer, ça peut devenir un autre ministère, où ton ministère, il peut continuer, tu peux y rajouter une autre partie de ton service pour Dieu. On n'en fait jamais trop pour lui, parce qu'il ne nous en demande pas trop. Mais des fois, nous, on en fait de trop par rapport à tout ce qu'on veut y ajouter. Donc, soyons sûrs d'être dans cette pensée de Dieu. Et ce que nous croyons, c'est que lorsque le Saint-Esprit a parlé à ce moment-là, au fond d'eux-mêmes, ces gens savaient déjà qu'ils étaient appelés par Dieu. Et ce n'est qu'une confirmation. Donc pour nous aussi, nous n'avons pas besoin qu'un prophète vienne et nous dise quoi faire de notre vie. Mais il y a néanmoins de vrais prophètes de Dieu qui sont employés par Dieu pour donner une parole ou pour confirmer quelque chose que nous avons déjà reçu par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le témoignage intérieur. Et ces choses sont alors simplement confirmées. Donc je vais juste terminer ce temps par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante dans ma vie. Merci pour la vie de Dieu qui se manifeste en chacun d'entre nous. Merci pour le rafraîchissement que tu donnes à chacun au niveau de l'esprit, de l'âme, de notre corps. Et nous voulons ce matin encore nous consacrer tout entier à toi. Et nous voulons te remercier parce que tu as tellement de choses que tu as préparées d'avance pour nous. Et nous voulons aussi nous placer tout à fait dans cette pensée biblique où nous voulons prier les uns pour les autres selon ta parole. Dans Jean 17, il nous est dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est-à-dire les apôtres, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.